Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous nous suivez sur 78 radio et 3 télévisions partenaires sur l'ensemble du pays. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. La situation sécuritaire au centre du pays devient de plus en plus préoccupante malgré les différentes rencontres sanctionnées par la signature d'un accord de paix signé entre Peul et Dogon. Un accord de cessez-le-feu unilatéral a été signé le 27 septembre 2018 à Sévaré. Mais également un communiqué conjoint de non-agression du 1er juillet 2019 entre Dana Ambassagou et la coordination de groupes armés Peul du centre du pays. À quoi servent tous ces accords? Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de l'insécurité au centre du pays? Y a-t-il de non-dit dans ce conflit? Quelle stratégie faut-il adopter? Nos invités, Hamadoum Diko, président de la jeunesse capitale Poulakou. Monsieur Diko, bonsoir.
Bonsoir.
Madani Tolo de Guinée Dogon, Monsieur Tolo, bonsoir.
Bonsoir.
Mamadou Diouara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa au téléphone. Monsieur Diouara, bonsoir. Je suis Imran Akilou Maïga. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique de l'USAID.
Le Grand Dialogue.
Hamadou Diko de Tapital Poulakou, comment se présente la situation sécuritaire au centre du pays?
La situation, elle est explosive. Elle est très grave quand on essaie d'analyser parce que chaque jour, au centre du pays, nous dénombrons de morts. Nous savons que chaque jour, les Maliens meurent au centre du Mali. Donc, elle est très grave.
Madani Tolo de Guinée Dogon, comment vous comprenez la situation au centre?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes salutations à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à l'heure actuelle. Le centre du pays dépasse vraiment une description que si vous l'amenez dans une proportion logique, il est extrêmement difficile de comprendre. Honnêtement, la situation est en train de se détériorer et moi j'ai des inquiétudes que ça ne devienne encore plus violent que la dernière fois passée. Donc, pour le moment, en cas l'état des lieux, les informations qui nous parviennent ne sont pas du tout réjouissantes. Et en réalité, j'avais effectué une dernière mission, nous, en tant qu'association, dans les quatre cercles. On est allé du côté de Bandiagara, du côté de Bankas, du côté de Koro et du côté de Douanza. Chaque ressortissant de ces coins sont partis parler à leurs parents. À leurs parents, tout confondu. Tous ceux qui vivent sur le terroir, en somme appelé terroir ou pays de bon, j'en passe de ces mots. Et je me souviens, lorsque nous sommes partis, eux-mêmes, la population eux-mêmes, ils sont pris en otage autant que nous. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Chaque jour, il y a des dos de mort. Tu ne peux pas aller paître tes animaux. Tu ne peux pas aller cultiver. Cela dure 3 ans. Donc, il y a une famine. Une famine, je dis bien, incroyable qui est en train de se pointer. Voilà, à ce niveau. C'est-à-dire que rien ne va au centre actuellement.
La situation, elle est explosive selon Tapital Poulakou. Elle n'est pas réjouissante selon Guinée Dogon. Mamadou Diouara, quelle explication peut-on donner à la situation sécuritaire du pays?
Ok, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord. Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Bien, alors, donc, permettez-moi d'abord de préciser que mon prénom est Mahamadou, et non Mamadou. Ça, c'est un élément qui me semble important. Maintenant, pour revenir au sujet, la région du centre du Mali subit une situation qui s'est construite dans la durée. Et cette situation, elle est multiforme. Il est important de comprendre que la résolution ne peut pas être rapide comme on l'espère. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Comme vient de le dire M. Tolo, il y a aujourd'hui une crise alimentaire, une crise économique, mais il y a aussi une crise sociétale à la base qui s'est installée par le fait de la contestation des valeurs et des mœurs au niveau local, il y a l'abondance des moyens de nuisance, notamment les armes qui sont éparpillées partout dans la région, qui concourent en fait à une exacerbation des petites tensions et des petites querelles qui vivent très rapidement en carnage, parce que les outils usuels ont été remplacés par des armes de guerre qui ont inondé la zone. En même temps, il y a également les égos qui prennent le dessus et qui font que beaucoup d'acteurs qui sont sur place ou qui sont en dehors des sites, mais qui se sentent rattachés à ces sites-là, participent à exacerber les conflits au niveau local. Donc, il y a beaucoup de petits aspects qui sont là, ce qui fait que l'ensemble des accords, des initiatives de paix qui ont été pris, peinent encore à concrétiser la paix. Mais il ne faut pas croire que parce que les tensions reviennent, ces accords de paix n'ont pas eu d'intérêt ou bien ne sont pas bien pensés. La construction de la paix est une entreprise qui requiert de la patience, de la persévérance, de la méthode et de l'insistance. Si les acteurs de la paix n'ont pas la persévérance nécessaire, n'ont pas la tempérance nécessaire, ils ne pourront jamais venir à bout des multiples soubresauts de la crise qu'ils veulent résoudre. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ça commande donc aux responsables agissant et parlant au nom des communautés, que sont Guinée de Gond et Capitale pour la Coup, de se mettre au-dessus de tout ce qui est interpellation des émotions, de l'ego ou même de la sensibilité, pour comprendre qu'in fine, le salut collectif ne se trouve que dans la construction et la consolidation de la paix. Cette construction de paix amorcée par des acteurs locaux, on a vu tout le travail abattu par, qu'on appelle ça, l'association Façon dans Béton, et tout le travail également qui a été abattu par l'initiative du gouvernement actuel pour aller à la base discuter
nous arrivons à ce sujet, Mahamadou Diouara. Et Monsieur Diko, comment les populations vivent cette situation?
Les populations du centre vivent dans le gène calvaire total. Parce qu'aujourd'hui, étant même fils du terroir, tu n'oses même pas retourner chez soi. Soit avant d'arriver, c'est une mine qui va exploser avec toi, soit tu vas être intercepté par une milice d'autodéfense, ou par des djihadistes, ou par d'autres personnes que nous ignorons, et être exécuté, soit avant d'arriver, quelqu'un va appeler pour dire qu'un tel est en train de venir. Donc avant d'arriver dans ton village, déjà les groupes armés sont informés en temps, et ils attendent à ton arrivée pour venir t'enlever, aller t'exécuter. Même avant-hier à Boni, entre les camps militaires et le carrefour, donc à 100 mètres du camp, un jeune a été sommairement égorgé en plein jour. Et on ne sait pas qui l'a égorgé, d'autres accusent les femmes, d'autres disent non, ça doit être d'autres personnes qui ne sont pas les femmes. Mais de mon point de vue, moi je dirais quand même que ça, ce n'est pas l'acte, l'œuvre des militaires en général, parce que quand ils tuent une personne, ils font tout pour casser le corps, le cadavre. Donc, je pense quand même que c'est pas eux le coupable. Donc,
et ça doit être qui?
Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas. Mais eux, c'est pas leur mode d'opération, à ma connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au centre. Nous savons qui fait quoi. Et quand on voit le mode d'opératoire, on peut dire que ça doit être les FAMA, ça doit être les djihadistes ou les groupes d'autodéfense. Vous voyez? Donc, là-bas, aujourd'hui, les populations vivent dans un calvaire total. Parce que tonton Tolo l'avait dit, que la crise économique, alimentaire, sécuritaire, tout, sociétal. Donc il est très, la situation explosive et que les populations ne parviennent même plus à bouger, à sortir de ces ailes. Nous sommes sous un embargo total. Vous comprenez? D'accord. Aujourd'hui, un fils du centre a même peur d'aller chez soi, dans son propre village. Vous voyez ce que ça fait?
Monsieur Atolo, comment se porte la cohabitation entre Peul et Dogon au pays Dogon?
Et la cohabitation entre Peul et Dogon, d'abord, précisément par ma personne, moi je n'ai jamais accepté depuis le débat que je suis en train de faire depuis 2013 à nos jours, quand on veut stigmatiser pour dire que c'est un conflit Peul-Dogon. Il va faire la part des choses. La part des choses, c'est quoi? Nous avons des Peuls avec lesquels on a vécu depuis plus de, je ne sais pas moi, 900 ans. Nos grands-pères ont vécu ensemble, nos pères ont vécu ensemble, et nous aussi, nous vivons ensemble.
Maintenant, comment est-ce que la situation peut se détériorer entre ces mêmes peuples et nous? Maintenant, il y a une donnée permanente. La terre que Dieu nous a donnée, c'est autour de cette terre que le Dogon cherche sa nourriture, sa vie. C'est autour de cette terre que le peuple cherche sa survie et son existence. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Des fois, il y a eu des conflits sociaux. J'appelle ça des conflits sociaux. On se tape avec un bâton. Après, ça se règle avec les chefs de village. Maintenant, comme Mahamadou Douara l'a dit, puisque les règles sociales sont déplacées, même oubliées, qu'est-ce qui a amené ça? C'est vraiment la politique. La politique comment? Tu vas trouver que dans une même famille, le père est un parti, la mère est un parti, l'enfant est un parti, et dans la même famille, c'est eux qui doivent faire, tu comprends, la synthèse, sinon la postérité de la famille. Le père, il est en porte-à-faux avec son enfant et sa femme. La femme est en porte-à-faux avec son mari et son enfant. Où est le problème? C'est endémique. C'est-à-dire que la femme n'écoute pas son mari, l'enfant n'écoute pas son père, sinon personnellement, d'un point de vue personnel, dans mon village, quand je dirais à mon fils, si tu agresses un peu, tu vas me trouver devant toi. J'ai l'habitude de mettre, moi, de garder en prison mon frère, même père, même mère, 4 mois en prison parce qu'il s'est battu avec les peuls. Ça, c'était la situation d'antan. Aujourd'hui, pour comprendre le problème, il y a un problème, tu comprends, les désordres qu'il y a eu au moment des élections, qui continuent là-bas. Les acteurs sont là, dans Courbi, hein. Je dis à Bamako ici, la racine du mal, c'est là. Hein. Donc maintenant, c'est-à-dire puisque les téléphones, les réseaux sociaux, j'en passe, le monde est un seul bloc, interconnecté. On a beau faire des missions agréables, réelles, on va partir pour dire, bon, Dogon et Pelu, maintenant c'est fini, on est d'accord. Mais ça dure le laps de temps, peut-être d'une semaine. Dès que nous tournons dos, et il faut savoir qu'il y a des acteurs qui ne veulent pas que ce conflit la finisse. Ils n'ont pas intérêt. Il y a des marchands d'armes, il y a des marchands de drogue, d'alcool, j'en passe. Et ils ne veulent pas que ça finisse comme nous voulons que ça finisse. Parce que moi, c'est mes parents qui sont là-bas. Ceux qui meurent, ce sont mes parents à moi. Un. De deux, le plus souvent, l'armée fait des amalgames. Honnêtement, récemment, on est allé bombarder une base où il n'y avait personne. Une base d'un arme.
Nous arrivons à ces bombardements. Monsieur Mahamadou Douara, Monsieur Tolo se pose la question, comment la situation arrive à se détériorer. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène d'insécurité au centre du pays, selon vous?
Ben, vous savez, l'origine, il y a plusieurs aspects qui sont à l'origine de ça. Hein. Je l'ai dit souvent lors de nos débats antérieurs. Quand, en 2012, les régions du Nord ont été occupées, tous les regards étaient concentrés sur le Nord. Mais les gens n'ont pas vu toute la pression qui était en train de s'exercer sur le centre et qui bouleversait tout l'ordre établi. Dans un premier temps, il faut savoir que la crise au Nord a déclenché l'arrêt du tourisme qui a annihilé l'ensemble de la chaîne économique de la région de Mopti, qui vivait essentiellement de ça. Le pays de Bon et d'autres sites touristiques de la région, tous les acteurs économiques, les commerçants, les hôteliers, les transporteurs, les artisans, tout le monde vivait de la chaîne économique liée au tourisme. La crise au Nord a provoqué l'arrêt du tourisme. Ça, c'est le premier impact de la crise sur le centre. Donc, le deuxième impact de la crise sur le centre, c'est que quand le Nord a été occupé, l'armée du Nord est venue s'installer à Mopti. Sans être une armée affectée où chaque agent est affecté à une unité, à une brigade, à une compagnie, jusqu'au commandant de zone. Le commandant de zone de Mopti qui était là-bas en 2012, qui connaît son nom aujourd'hui? Personne. Didier Bago, qui s'est installé à Mopti, n'était pas affecté à Mopti, il était à Gao. C'est en quittant Gao, en désertion, qu'il est venu s'installer à Mopti. Et tous les militaires qui ne voulaient pas cohabiter avec la junte à Bamako sont partis s'ajouter à lui, dans l'optique d'aller vers une reconquête hypothétique du Nord. À côté de ceci, des milliers de jeunes qui voulaient également se former pour participer à la guerre de libération du Nord venus du nord ou venus du sud, sont venus se retrouver dans la région avec des formations militaires à ciel ouvert. Donc la région a été surpeuplée par des acteurs qui ne sont pas producteurs de richesses, mais consommateurs quand même, et qui se sont livrés à une activité militaire avec usage et manipulation d'armes, donc en développant des aptitudes de nuisance, sans un encadrement moral et réglementé. Donc tout ceci a eu un impact important. Le troisième aspect, c'est que les populations harcelées par l'occupation au nord se sont massivement déplacées pour venir majoritairement s'installer dans la région de Mopti. Et ces populations aussi ne sont pas des producteurs agricoles, ce ne sont pas des producteurs de richesses, mais c'est des consommateurs. Donc imaginez une région dont l'activité économique essentielle a été annihilée parce que c'était le tourisme, et qui se retrouve avec 4 à 5 fois plus de population qu'initialement, la crise devient latente. Et quand cette population est majoritairement jeune, militarisée et outillée pour la nuisance militaire, facilement, on arrive à un bouleversement. Et ces bouleversements sont de divers ordres. Le premier ordre est lequel ? C'est que c'est des acteurs nouveaux qui ne sont pas du terroir, qui ne connaissent donc pas les mœurs et les traditions, et dont le comportement sera en déphasage avec les logiques culturelles internes du milieu, du point de vue sociologique. L'autre aspect qui est important, c'est que la rarification des ressources de subsistance renvoie les gens à tomber dans le réflexe de la prédation ou du repli identitaire ou communautaire. Donc les communautés vont se retourner sur elles-mêmes, développer leur réflexe de protection de leur bien et de leur identité, ce qui va aboutir à la naissance des tensions intercommunautaires. Maintenant, à côté de ça, l'absence de l'État engendrée par le développement du terrorisme, parce qu'au moment où cela se faisait, de l'autre côté de la zone non occupée, de la zone occupée, se trouvaient aussi les groupes terroristes qui avaient rassemblé des milliers de jeunes et qu'ils étaient en train de former, d'abord par des missions de dawa, ensuite par leur enrôlement et leur entraînement militaire, pour les préparer à devenir les terroristes qu'ils sont aujourd'hui dans le centre du pays. Donc ceci, leur nuisance a engendré le déplacement de l'État. Et le déplacement de l'État a permis l'émergence de nouvelles légitimités locales fondées sur la capacité de disposer d'une arme et de s'imposer par la force. Et cela a fait que des individus dans le milieu peul qui étaient avant des vassaux ont pu, par l'acquaintance avec les groupes terroristes, poser des actes de violence pour les permettre de s'arroger une nouvelle place, une nouvelle légitimité et un nouveau rang au sein des communautés qu'ils n'avaient pas avant. Donc, des crises intracommunautaires aux crises intercommunautaires, la situation a continué à s'empirer. L'absence de l'État a permis aussi l'arrivée de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez dans le centre du pays, il y a toute une mafia du vol du bétail des régions, de la région de Mopti pour aller ravitailler l'Algérie. Donc, les gens viennent voler les bétails au centre pour l'amener vers Abaïbara. Et à partir de Abaïbara, il y a des camions qui viennent le prendre pour l'amener en Algérie. D'autres personnes viennent aussi le voler pour l'amener en Côte d'Ivoire jusqu'au Libéria. On a des donceaux de la Côte d'Ivoire et des mercenaires du Libéria qui viennent également opérer dans la zone. Et tous ces acteurs-là, comme l'a dit M. Tolo, font partie de ceux qui ne veulent pas que la situation se résolve dans le centre du pays. Parce qu'il y a une économie criminelle qui s'est développée autour de ça. Donc la situation est extrêmement complexe. On n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans l'ensemble des détails, mais il y a énormément d'acteurs qui sont là avec des agendas diversifiés et qui chacun concourt à rendre la situation plus difficile à régler. C'est pourquoi les responsables des communautés et des
gouvernements
doit faire
le défacement
de soi.
D'accord, Mahamadou Diawara. Monsieur Dicko, selon Mahamadou Diawara, des activités de nuisance sont menées au centre du pays. Également, des individus peulent en complicité avec d'autres, des ambitions inavouées. Est-ce que vous confirmez son analyse?
Vous savez qu'il est très important de comprendre, de savoir qu'aujourd'hui, la crise du centre, elle est quand même entretenue par d'autres personnes. Si vous voyez qu'elle s'exacerbe chaque jour, la crise devient de plus en plus grande et de plus en plus complexe. Cela veut dire qu'il y a des gens qui soutiennent ces milices, il y a des gens qui soutiennent ces terroristes, il y a des gens qui soutiennent toutes ces ethnies qui sont là-bas, qui sont en train de s'entretuer. Cela est clair. Maintenant, là où seulement je vais en venir, parce qu'il y a une partie où il a dit que certains peuples ont voulu trouver de la place au sein d'autres ethnies, auxquels ils n'en avaient pas. Là, moi, là-bas, je ne comprends pas bien parce que, si je me fais bien comprendre, avec les terroristes djihadistes, quand ils ont commencé leur exaction, ils ont commencé par d'abord tuer les peuples. Par exemple, j'ai toujours répété ici au studio Tamani, moi-même je suis un exemple, parce que toute la famille a été quasiment décimée. Plus de 9 membres de la famille étaient assassinés par ces terroristes, que les gens disent peuls, vous voyez. Donc pour moi, un peul n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion même. Un terroriste, c'est un terroriste, vous comprenez. Donc c'est des gens qui sont, c'est des Maliens qui ont pris des armes et qui ont combattu toutes les communautés maliennes, tous les Maliens donc en un mot. Et c'est très important de revenir à ça parce qu'il faut que les Maliens comprennent que nous sommes tous des Maliens. Et à part que peul, dogon, bamara, autre chose, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on accepte qu'il n'y a que le Mali. D'abord, sans quoi il n'y aura pas la paix. Parce que si moi je vais dire peul seulement, il n'y aura pas le Mali. Et tant qu'il n'y a pas de Mali, le Dogon va dire non, le peul ne va pas venir me dicter la loi. Et si le Dogon dit pareil, un Bamara va dire non, un Dogon ne va pas me dicter la loi. Donc vous voyez, c'est très important. C'est ce que je veux dire.
D'accord. Monsieur Tolo, à quoi servent les différentes mesures prises pour rétablir la sécurité dans cette zone?
Ok, merci. Vraiment, je remercie Mahamadou Diouara qui a l'expertise pertinente de la situation qui a touché pratiquement tous les problèmes qui se trouvent au centre. Maintenant, le diagnostic est fait. Quelle est la solution? On est à ce niveau. Et alors, quand il me pose cette question de savoir quelle est la situation qui se passe au centre, la situation qui se passe au centre est connue. D'abord, l'absence totale de l'État qui devrait être l'arbitre, sinon un tampon entre les administrés et vraiment l'État. L'État n'est pas là. Tous les problèmes, tu comprends, se trouvent soit autour d'un puits d'eau. Par exemple, l'État peut creuser plusieurs puits où les gens ont à boire. Il n'y a pas à boire. Il n'y a pas, et on ne soigne personne. Il n'y a aucun service de santé qui fonctionne. L'école ne fonctionne pas. Ils ne sont pas allés à l'école des Blancs, mais ceux qui sont au village là. Ils savent ce qu'ils font. En fin de compte, chacun cherche sa tête. Puisque l'État qui est chargé et régalien pour défendre la sécurité des individus, l'État n'étant pas là, ils sont obligés de trouver une formule pour se défendre. Tu ne vas pas y rester couché et qu'on vienne te tirer là-dessus. Un. De deux, par exemple, je donne un exemple épatant. Il y a un djihadiste qu'on a pris dans notre zone, nous, à Kassa, dans l'arrondissement de Diankabou. Il ne comprend ni Dogon, ni Peul. Il ne parle, c'est le dialecte qu'il parle, personne. D'abord, il est parti, il était perdu. Les autres étaient partis, ils l'ont laissé là-bas. Moi, quand on m'a dit qu'il y a cet individu avec eux, je leur ai dit, ne le faites rien, il faut le remettre aux forces de l'ordre qui se trouvent à Diankabou. Il y a une garnison, un détachement à Diankabou. Mais on l'a remis. Mais le reste, maintenant, pour eux, le paysan.
Est-ce que les partis ont la bonne foi d'aller vers la paix?
Les partis, c'est-à-dire les nôtres, parce qu'il faut spécifier, il y a plusieurs acteurs. Comme M. Diouara l'a dit, il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs qui veulent aller à la paix. Moi, je suis parti à Tankoulé. Tankoulé, c'est les peuples qui sont même père, même mère que nous. Mais je vous assure, ils m'ont fait pleurer et ils ont pleuré. Ils m'ont dit qu'il y a 3 ans, qu'un Dogon n'a pas mis pied là-bas. Et quand moi, je suis venu, tout le monde me connaît à travers mes parents, à travers moi-même. Mais ils ont pleuré, moi, j'ai pleuré. Donc, c'est-à-dire, eux aussi sont pris en otage, comme les Dogons. Je donne un exemple, c'est sur la plaine qu'il y a le problème. Sinon, les Dogons qui sont sur la montagne, mais les soi-disant djihadistes, là, ils ne montent pas là-bas. Donc, il faut se demander la question, maintenant, est-ce que c'est vraiment la plaine qu'ils veulent libérer de tout le monde? Ça, c'est une question qu'on se pose. Et puis, pour quelles raisons, quand nous parlons à nos parents, qui sont d'accord avec nous, la dernière mission que nous avons effectuée, on a réuni tous les chefs de village, on leur a dit vraiment, gardez la dignité que vous aviez auparavant. Ils nous ont dit, moi, j'ai vu un chef de village qui m'a appelé, dont j'étais le nom. Il dit, Tiavi, j'ai le tabac dans ma bouche. Ce que vous cherchez à voir, là, s'ils m'ont vu avec le tabac dans ma bouche, ils vont me canarder. Donc, ça veut dire qu'eux aussi sont pris en otage. Et ceci, C'est ça, c'est le rôle de l'État. Sinon, nos populations ne peuvent pas se battre contre eux.
D'accord. Alors, je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique de l'ISAID. Monsieur Duco, pourquoi l'État n'arrive pas à maîtriser la situation au centre du pays, la situation sécuritaire au centre du pays?
Vous savez que l'État, on peut dire que si on essaie de très bien analyser, il y a un manque de volonté ferme. Parce que moi, je pense que l'État doit être ferme sur tout ce qu'il fait. Un État faible, un État qui n'attend qu'à ce que les gens se lèvent pour dire « bon, on va essayer de solutionner », ce n'est pas un État. Donc c'est l'État même qui n'existe pas au Mali quand on essaie très bien d'analyser. Il nous manque d'État. S'il y avait d'État, aujourd'hui, on n'allait pas trouver que la crise n'est pas finie, même à Kidal, la plus forte région, au centre. La crise ne devait même pas atteindre le centre, dans les conditions normales. Mais ils ont été tellement faibles qu'on s'est retrouvé dans cette situation que personne ne maîtrise aujourd'hui, vu que vous voyez le nombre exorbitant de forces étrangères et puis les forces maliennes qui sont ici. Vous avez vu le nombre d'armes qui circulent librement au centre et tout le monde est permis d'avoir une arme. Donc du coup, l'État ne peut absolument rien faire aujourd'hui si ce n'est pas que nous, les Maliens, qu'on s'assied, qu'on discute et qu'on s'associe pour aller combattre les forces du Mali. Parce qu'il est important de souligner qu'au centre et au nord du Mali, il n'y a pas que des Maliens. Aujourd'hui, tous les bandits se retrouvent au centre du Mali et au nord du Mali. Il faut que cela soit clair. Même si aujourd'hui, Peul, Dogon, les Bambara et autres ethnies qui sont au centre et au nord acceptent d'aller vers la paix, il y aura toujours d'autres personnes de mauvaises intentions qui vont dire non, on ne va pas aller à la paix. Parce que vous vous rappelez, en 2012, ce n'est pas les Maliens en quelque sorte qui ont commencé la guerre. Quand l'armée a été défaite, vous vous rappelez bien, c'est l'ACMI. C'est des djihadistes venus, je ne sais même pas d'où, peut-être même du Pakistan, qui ont défait l'armée et l'armée a reculé. Donc l'armée a laissé le nord, les nordistes entre les mains de ces djihadistes qui ont pu s'installer librement et faire ce qu'ils veulent. D'accord. Vous voyez,
Mamadou Diawara, y a-t-il un manque de volonté de l'État, comme le dit M. Duco?
Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté de l'État, hein, parce que je pense que je comprends bien la position de M. Duco. C'est un citoyen, qu'on appelle ça, éprouvé, et en souffrance, et qui regarde vers la seule destination qui est légitime, qui est l'État. Seulement, il est important de se rappeler que, et ça, c'est important de le dire, hein, parce que les Maliens attendent trop de l'État, c'est légitime. Mais on oublie que nous avons un État totalement déconstruit en 2012, qu'il a été nécessaire de reconstruire au fur et à mesure. Et en 2012, ce que les gens oublient, c'est que le Mali a fait affaire d'abord à sa propre armée. C'est quand même près de, j'allais dire, un tiers de l'armée malienne déployée au nord et au centre du pays qui a déserté pour aller dans la rébellion. En officiers, sous-officiers et hommes de rang qui sont partis aussi avec les armes, les munitions, la formation militaire et les informations tactiques de notre système de défense pour venir attaquer les mêmes bases qu'ils étaient chargés de défendre. À ceci s'est ajoutée l'élite de la plus puissante armée d'Afrique, la Libye. Et à ceci s'est ajoutée l'armée qui déstabilise les États-Unis, notamment Al-Qaïda. Et c'est tout ceci ensemble qui a attaqué ce qu'il restait de l'armée malienne au moment où, à Bamako, un coup d'État militaire a fait partie tout le haut commandement, et c'est un capitaine qui régnait sur une armée où les commandants sur le terrain étaient des colonels-majors. Les gens oublient ce contexte. Donc la reconstruction d'un tel État n'est pas une mince affaire. Ça demande énormément d'efforts en termes de construction des hommes, d'équipement, de formation et de reconstruction d'un système. Donc qui prend nécessairement du temps. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a énormément d'efforts qui ont été déployés par l'État. Et dans le cadre de la crise du centre, le Premier ministre actuel a pris des initiatives en allant à la base.
Monsieur Diawara, nous arrivons dans peu de temps à ces différentes mesures prises par le Premier ministre et d'autres ministres qui étaient au centre du pays.
C'est la logique de la réponse à votre question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté politique? La réponse à cela, c'est les actes posés. Il y a une politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui a été élaborée par l'État du Mali. Il y a le plan stratégique de la sécurisation intégrée des régions du centre qui a été élaboré. il y a la loi de programmation de la sécurité intérieure et la loi de programmation militaire qui ont été faites. Il y a une stratégie nationale de la sécurité intérieure qui ont été élaborées. C'est autant d'initiatives prises par les différents gouvernements successifs pour faire face à la question. Mais comme je l'ai dit antérieurement dans mon intervention, c'est un problème qui est extrêmement complexe, qui a plusieurs embranchements et dont la maîtrise requiert du temps, de l'expertise et de la patience.
D'accord. Monsieur Tolo, quelles sont les causes réelles de cette situation au centre du pays?
Bon, les causes réelles, c'est-à-dire il y a une donnée permanente. Le plus souvent, tu entends les gens parler de la milice Dana Massagou. On diabolise, tandis que Dana Massagou, je vous l'ai dit, je répète, nous connaissons qui ils sont. C'est des parents à nous. Quand nous leur parlons, ils nous écoutent. Mais l'ennemi qui est courpi, invisible, inconnu, c'est ça la donnée permanente. Tant qu'on n'arrive pas à dénicher ces gens, on va faire toutes sortes de résolutions, on va faire toutes sortes de réunions, ça ne va pas amener le résultat escompté. Par exemple, je donne un exemple. C'est-à-dire, Dana Massagou a été traité honnêtement, injustement. Il faut le dire, c'est le moment de le dire. Ils étaient en réunion quelque part, on a brûlé leur moto. Ils ne vont jamais attaquer qui que ce soit. Un. De deux, récemment, on a bombardé deux camps. C'est-à-dire, on appelle ça camp, ce n'est même pas des camps. Ils sont partis bombarder là-bas. Ce n'est pas eux qu'il faut bombarder.
Qu'est-ce qui peut expliquer ce bombardement des bases de Dana Massagou?
Il n'y a aucune raison réelle, aucune raison objective. De telle sorte que, si on ne fait pas attention, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, ça veut dire quoi?
Mais est-ce qu'il y a-t-il réellement de bombardements? Puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore un bilan.
Mais il y a des bombardements, c'est-à-dire récemment, à côté de Gundaga, il y a eu des bombardements. Et on a suivi, par exemple, le camp de Sojo. Il y a eu un autre camp qui a été bombardé. Pour quelles raisons, je ne sais pas.
On a parlé du bombardement tout récemment du camp de Bandjougou, à 30 km de Sévaré. Est-ce réellement dans ce camp, il y a eu des pertes en vies humaines?
Non, des pertes en vies humaines, non. Mais maintenant...
Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette base? Il y a quoi là-bas?
Dans cette base-là, quand nous, par exemple, quand la mission est partie, on les a dit de se démobiliser. Dans le camp, pratiquement, il n'y avait personne. Maintenant, le camp était là-bas. C'est-à-dire pour d'éventuels... Parce que quand on est allé, c'est-à-dire quand il y a un déficit de confiance entre toi et moi, mais je me méfie de toi. Mais l'autre jour, le ministre Diaby a dit à la télé, il dit que lorsqu'on voulait désarmer les choses au nord là-bas, et ils disent que ce n'est que l'arme seulement qu'ils ont pour se faire entendre, ils ne vont jamais accepter de se faire désarmer tant qu'ils ne voient pas concrètement de quoi il s'agit. Bon, maintenant, dans le camp, il n'y avait personne. Ils ne sont pas nuisibles. Ils ne s'attaquent à personne. Il y avait peut-être des marmites, il y avait peut-être des trucs. Sinon, il n'y avait personne. Ils sont allés bombarder ces choses-là, des motos, tout ça. Mais les autres là, et les soi-disant djihadistes, parce que moi, je fais la différence entre nos peuples et les soi-disant djihadistes. C'est une différence totale. Alors, de sorte que les djihadistes là circulent avec souvent 50 motos, deux personnes là-dessus. Des fois, 100 motos, 2 personnes, ça fait 200 personnes. Et ces gens circulent, on connaît, les Dana Massagou là, savent où ils sont.
D'accord.
Mais on ne s'attaque pas à ceci. Il y a des gens auxquels on a parlé, qui avaient même rejoint la maison.
Monsieur Diko, y a-t-il des réseaux qui se cachent derrière ce conflit?
Bien sûr qu'il y en a, parce que vous savez que si vous voyez que les conflits durent, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui alimente ça. Parce qu'il faut avoir un soutien. Il est très difficile de faire la guerre.
D'où vient ce soutien-là?
C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que ça, moi, je pense que c'est l'État même qui est censé de mener des enquêtes. La sécurité d'État est là, d'autres...
Mais comment vous savez qu'il y a, il y a ce soutien?
Bon, pertinemment, vous avez vu à plusieurs reprises qu'on a arrêté des cars remplis d'armes à Sévaré. Et ces cars quittent Bamako. Donc il y a quelqu'un quand même qui a pu acheter ici les armes et les envoyer au centre. C'est clair. Donc, vous voyez, pour encore un peu revenir par rapport à l'État malien, si vous permettez, parce que je disais, par exemple, au centre du Mali, moi je suis du Douanza, tout de suite, les FAMA, par exemple, les militaires, les forces maliennes de sécurité, qu'est-ce qu'elles font? Elles-mêmes, elles cherchent à se sécuriser. Par exemple, elles prennent les populations comme un bouc bouc émissaire. Vous comprenez? Par exemple, entre Boni et Douanza, vous avez entendu parler de l'explosion d'une mine qui a coûté la vie d'une vingtaine de personnes, d'une compagnie, de la compagnie Sonef Transport, vous vous rappelez, il n'y a même pas longtemps. Je vous assure qu'entre Boni et Douanza, c'est 90 km. Et s'il y avait deux camps entre intermédiaires, c'est-à-dire à côté de Dalla et à côté de Nokara, il n'y aurait pas ces poseurs de bombes. Cela est clair, mais qu'est-ce que font ces militaires? Ces militaires sont tous dans les grandes villes, soit à Boni, soit à Douanza, soit à Sévaré, en train de se sécuriser eux-mêmes. Donc c'est ce qui fait que l'État n'a pas de volonté. Il faut la patrouille. La nuit, par exemple, les poseurs de bombes, ils partent la nuit pour placer leurs bombes. Il faut quand même une patrouille. Si tu sais que tu peux te faire attraper par les militaires la nuit, tu ne vas pas oser le faire. Alors que les militaires dorment la nuit, à partir de 18h, ils ne sortent pas, et que les autres profitent de ce temps-là pour aller mettre leurs bombes. Vous comprenez? L'État malien pouvait empêcher la création des milices. L'État ne peut pas me dire qu'il n'était pas au courant de la création, de la formation de ces milices.
D'accord.
Hein? Cela est clair. Et tout le monde accusé ici, toutes les communautés du centre ont accusé le premier ministre sortant. Et même l'actuel, on est en train de l'accuser. Vous voyez? D'accord. Donc cela veut dire que l'État a sa part de responsabilité. Le dénominateur commun, là, c'est l'absence de l'État. C'est le nom, c'est le manque de volonté de l'État malien. C'est ça, le dénominateur.
Je voudrais ajouter un peu.
Allez-y.
C'est-à-dire, nous, la dernière mission qu'on a effectuée, il y avait Peul Dogon. Babali Bari y était, Djibril Bari y était, Amadou. Enfin, on était une trentaine, Dogon et Peul, du tout ce qui est Kerem ici à Bamako. Quand nous sommes partis, on est allé parler aux Dogon, on leur a dit, bon voilà, les Peul que vous accusez là, voilà, ils sont là. Dites-leur tout ce que vous avez à dire. Baba Liba a été assis. Ils ont douté ce qu'il en dit. Il a dit que dans tout ce que vous dites, à 90%, sinon 95% de tout ce que vous dites là, c'est mensonge. On a amené aussi les Dogons, c'est-à-dire du côté des Pelous, on disait c'est les Dogons là qui financent un tel, Dana, Massa, tout ça là. Là aussi, c'est en fait une contre-vérité.
D'accord.
Tout ça, ça a été prouvé. Donc quand les parents ont vu que ceux qu'ils accusent, croire que nous, entre nous, il y a une animosité à Bamako ici, il n'y en a pas. Ça a commencé vraiment de les laisser réfléchir et de dire que bon, vraiment, eux aussi, ils vont cesser. Mais quand nous avons quitté Montvier, on a dit que c'est de la mascarade. L'État devrait prendre le relais de notre mission à nous et circuler et voir quels sont les malfrats qui sont. Parce que quand on est parti ici, jamais de moi, on a quitté à maintenant. Qu'on n'avait pas enlevé de bétail, qu'on n'avait pas tué quelqu'un, qu'on s'est attaqué à personne. Mon vieux, je vous assure, l'appel allait revenir.
D'accord.
Mais pour hypothéquer le paix que nous avons eu, bon, ils sont partis saboter.
D'accord.
Et l'État les laisse saboter.
Il nous reste peu de temps. Mahamadou Diouara, est-ce qu'y a-t-il des raisons non avouées dans ce conflit au centre du pays? En une minute.
Alors, rapidement, ce que je vais dire, c'est que je crois que l'explication que M. Tolo vient de dire, hein, en lien avec ce que mon frère Diko a développé, prouve qu'il y a dans le centre du Mali d'autres acteurs en dehors de ceux qu'on se plaît à accuser, notamment les Peuls, les Dogons, les responsables ici à Bamako. D'abord, il est important de savoir, comme je l'ai dit dans mon intervention précédente, qu'il y a des acteurs de d'autres pays qui sont en train de faire développer une économie criminelle en accointance avec certains individus maliens dans le centre du pays. Tant qu'on n'aura pas compris cela, pour s'attaquer aussi à ces personnes, on va continuer à s'accuser entre nous mutuellement, inutilement, sans arriver à bout du problème. Je salue l'initiative que M. Tolo vient de dire, de se déployer sur le terrain avec les personnes, les premiers responsables, dont les noms sont cités partout. En deuxième ressort, ce que je voudrais également expliquer, c'est que quand vous partez, vous parlez au chef, et que le chef vous dit, par exemple, que si moi je vais dans ça, on va me canarder, ça prouve ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit qu'actuellement, et je profite pour répondre à la question que Diko a soulevée, quand je disais qu'il y a certains acteurs de la communauté Peul qui ont, par le fait d'être en accointance avec les terroristes, pris des armes, et ont réussi à se changer de statut. Dans la communauté Peul au centre du Mali, elle est stratifiée. Il y a des gens qui sont des vassaux, qui en temps normal n'ont pas voix au chapitre par rapport aux grandes questions, parce qu'on les considère comme des vassaux. Ces acteurs frustrés ont eu une audience auprès des terroristes. Et comme il l'a dit, quand Amadou Koufa et ses hommes ont commencé à agir dans le centre, les premiers qu'ils ont attaqués, ce sont les dignitaires Peul. Ce sont les grandes familles Peul qu'on a essayé d'éliminer. Donc, les acteurs qui sont là-bas là, ne reconnaissent pas la légitimité et la parole des pouvoirs traditionnels. Ce qui fait qu'avant, quand le chef dit « non, c'est fini là », c'était fini. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres acteurs qui imposent leur volonté au chef lui-même parce qu'ils ont la force et ils ne répondent plus des valeurs culturelles à la base qui les amènent à se soumettre aux autorités.
D'accord.
Mamadou, et ça, c'est extrêmement important à comprendre.
D'accord, Mamadou Diarra, vous dites vous donnez des raisons valables, mais il nous reste quelques temps à finir avant de clore cette émission. Monsieur Diko, aujourd'hui, les différentes visites du Premier ministre au centre du pays et d'autres ministres au centre du pays ont-elles changé quelque chose dans la donne?
On avait de l'espoir quand on a vu le nouveau Premier ministre aller au centre et l'initiative qu'il a prise en prenant les ressortissants du centre tels que Babaliba et Nantoumé pour aller sionner avec les autres associations et tous les fils du terroir, aller sionner village par village, étranger, sensibiliser pour qu'il y ait un retour définitif de la paix. On a vraiment dit qu'il est en train de travailler et je pense qu'il est ambitieux, il veut ramener la paix au Mali, je crois bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons que récemment, par exemple, même le 5 septembre passé à Banyagara, nous avons vu une manifestation qui est essentiellement composée de jeunes qui ont demandé la démission même du Premier ministre. Et nous avons vu aussi dans les réseaux sociaux où certains jeunes, je dirais Dogon, c'est-à-dire des associations telles que le collectif, telles que Dogon Vision, qui accusent ouvertement Babaliba, disant que le terroriste, il faut qu'il quitte sa fonction du conseiller spécial du Premier ministre. Donc c'est très grave d'accuser sans preuve et de dire que Babaliba c'est un terroriste. Vous voyez ce que ça peut amener, ça peut créer des frustrations. Il faut que les jeunes comprennent qu'il est temps d'aller vers la paix. Il est temps d'arrêter de publier des messages qui peuvent intensifier les exactions, qui peuvent amener, créer de la haine. Ce n'est pas bon, il faut qu'ils comprennent ça. Je pense que personne n'a de preuves contre Babaliba, personne n'a de preuves contre Nantoumé, personne n'a de preuves contre Tabital ou Dina Dogo. Donc nous sommes des acteurs de la paix, nous voulons ramener la paix, il faut qu'on ramène la paix, c'est ce qui nous importe. Sans quoi, personne ne retournera au centre.
Monsieur Tolo, quelle a été l'utilité de ces visites?
Quelle a été l'utilité? Honnêtement, moi je remercie et je félicite particulièrement Dr Boubou Cissé. Il a une approche réelle. D'abord, très souvent dans les émissions, moi j'ai dit que avant affamé, point doré. C'est-à-dire, quand on a faim, on ne peut pas écouter. Il a amené 6000 tonnes de céréales pour la région. Ça, c'est un point extrêmement positif. Le deuxième point, c'est quoi? Il y a des acteurs, des intervenants hybrides. Chaque matin, chaque jour, il y a d'autres personnes qui se créent. Je cherche la paix au centre. Il a fait un point focal au niveau de la primature. Il y a une personne qui répond au nom de tous ceux qui se disent chercher la paix au centre. Donc, quand on s'adresse à lui, lui, il va vraiment remonter l'information. Ça, c'est un autre point positif. L'autre point positif, c'est quoi? Quand on est parti, le Premier ministre, dans la mission, moi, je faisais partie. J'ai dit ceci à Bankas. J'ai dit que même si tous les peuls mouraient et qu'il restait un peu... Ce peuple-là, il va vivre parmi les Dogons. Si les Dogons mouraient et qu'il restait un Dogon, ce Dogon, il va vivre parmi les peuples.
Vous parlez des acquis du Premier ministre et le haut représentant du chef de l'État pour le centre. Quel a été l'impact de son intervention au centre?
Bon, le haut représentant du président, honnêtement, moi, je ne me retrouve pas dans ce... Parce que regarde, le centre-là, est, tu comprends, la sommation, l'addition... de tout ce que tu peux trouver comme ethnie au niveau du centre. Donc, le président Diongouna, j'ai du respect pour lui, mais j'ai bien peur. J'ai bien peur, parce que pour chez nous, dans notre tiroir, pour écouter quelqu'un, il va falloir le connaître. Parce que moi, je vais parler au centre, parce qu'on me connaît. Sinon, si on ne me connaît pas, et que c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne peut pas connaître ton problème.
D'accord.
Par exemple, il y a un mode de vie entre nous. J'appelle ça la civilisation sociale qui nous lie. Dès que tu ne connais pas ça, c'est un autre problème. Sinon, si je parle à un bozo, il va s'arrêter. Si un bozo parle à un dogon, il va s'arrêter. Mais par contre, ce n'est pas la même chose que
Monsieur Duco, Tabital Poulakou avait manifesté le 26 janvier dernier pour exiger le désarmement de toutes les milices. Qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui?
Bon, vous savez, malheureusement, vous avez remarqué qu'il y avait eu la dissolution de la milice d'Anna Massagou. Et vous avez aussi remarqué des signatures qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire avec des groupes se disant peuls.
Mais est-ce que c'est avec les vrais acteurs que ces signatures ont eu lieu?
Non, je dirais non, parce que vous avez vu que les exactions continuent et ceux qui ont signé au nom de peuls ici ne représentent même pas leur famille. C'est n'importe quoi. Ils sont assez varés, cantonnés, ils font rien. Ils ne peuvent pas ramener la paix. Il faut qu'on travaille avec les vrais acteurs. C'est ce qu'il faut.
Mahamadou Adjouara, en 30 secondes, quelles peuvent être les solutions à cette crise au centre du pays?
Il faut renforcer le dialogue avec les acteurs à la base, comme le Premier ministre l'avait amorcé. Il faut renforcer le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du centre, en créant un nouveau maillage territorial. Et il faut changer la dynamique des forces de défense et de sécurité.
Merci Mahamadou Diouara. Merci Mahamadou Diouara, le temps nous fait défaut. C'est la fin de ce débat sur la situation au centre du pays. C'est un débat en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique de l'USAID. Nous étions avec Hamadou Diko, président de la Jeunesse Tapital Poulakou, Madani Tolo de Gina Dogon, Mahamadou Diouara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa. Je suis Imrana Kilo Maïga, à la mise en onde de Mamadi Keïta et à la régie vidéo Salim Diouara. Et la coordination est assurée par Mohamedou Touré. Et je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique. Bonne suite de programme.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biri.
Halou Dmoun.
Chenni Biri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.